ça. Là, ça tourne. C'est ready.
Bonsoir à tous pour notre dernière séance sur bonheur, joie, plaisir dans les textes bibliques. Comme j'aurai l'occasion de le rappeler dans un éditorial pour la feuille d'information paroissiale de Saint-Eustache, le recours à l'écriture est toujours quelque chose de fondamental pour un disciple du Christ. Bien sûr, nous ne sommes pas une religion du livre, et encore moins des fondamentalistes. Donc, nous ne lisons pas la Bible comme dans un western, en l'ouvrant à n'importe quelle page, et en y voyant, évidemment, une parole adressée. Parce que j'ai découvert que c'était la mode maintenant, il y a des petits livres, comment être zen, etc. Il faut ouvrir à n'importe quelle page, et c'est un message qui nous est adressé. Alors, la Bible, c'est évidemment toute une sédimentation, toute une épaisseur de médiation, de textes, mais qui sont là pour que nous vivions autrement. Alors, pour un chrétien, le Christ est le Verbe incarné, il est la parole incarnée, mais il n'est connaissable que si on prend au sérieux, bien sûr, tous ces textes. On accède à qui il est, à son identité, qu'avec ces textes. Alors, évidemment, dans nos églises, l'écriture sainte, comme nous l'appelons, n'est pas le seul gisement de sens, ça n'est pas la seule source. C'est une norme à côté de la tradition, à côté des écrits des pères de l'Église, à côté de la théologie, à côté du magistère, c'est-à-dire l'autorité des Églises, que ce soit celle des évêques ou celle des différents consistoires, des différents responsables des Églises. Il y a donc à faire fonctionner, non pas en système, mais en communion, toutes ces sources. Mais l'écriture reste quand même la norme normante, comme dit, non pas normande, c'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais la norma normans, c'est-à-dire la norme qui norme les autres normes. Donc une norme, une règle de sens dotée d'une autorité largement enracinée dans la pratique chrétienne. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Il y a des petites feuilles avec les textes de l'Apocalypse.
Mais pour nous, on n'a pas ce rapport-là à l'écriture.
Comment ?
On n'a pas ce rapport-là à l'écriture.
Alors, oui, voilà. Alors, bienvenue, Marc, pour cette dernière séance. Voilà, on est bien lancé. Et en tout cas, voilà, notre parcours converge avec l'Apocalypse ce soir. La révélation et je crois que on pourra, avant de prendre l'apéritif conclusif pour fêter le joli mois de mai, on pourra peut-être prendre un temps d'échange pour voir comment tous ces textes que nous avons traversés depuis la Genèse, la promesse de bonheur, la promesse plus ou moins fallacieuse, mais aussi promesse authentique de Dieu, jusqu'à l'Apocalypse que j'avais choisi parce que lorsque j'étais enfant, à 3 ou 4 ans, ma maman m'avait présenté la vie avec Dieu, ce qu'on appelait le paradis, avec ces phrases-là. On n'aura plus soif, on n'aura plus peur, il ne fera plus nuit, il n'y aura plus de mort, et tu ne pleureras plus. Voilà. Alors, il séchera toutes larmes de leurs yeux. Je crois que, finalement, c'est cette consolation qu'on trouve déjà chez Isaïe, « Consolez, consolez mon peuple ». Je crois que c'est quand même, si on ne veut pas faire du bonheur chrétien quelque chose d'abstrait, ou une espèce de mirage, ou quelque chose qui n'aurait aucune réalité pour nos vies, pour ma vie, pour la vie de chacun de nous, je crois que dans cette consolation, il y a quelque chose de très fort. Devant Dieu, nous sommes toujours des enfants. Alors, l'écriture.
L'écriture, oui. Alors l'écriture, si vous voulez, pour moi, ce n'est pas une norme normante où il y aurait l'autorité à côté, où il y aurait une négociation avec une autorité d'Église. D'abord parce que nous, l'Église ne fait pas autorité. Ensuite, est-ce que la Bible elle-même est une norme normante ? Ça peut l'être pour certains types de protestants, mais en fait, dans nos églises, les écritures d'ailleurs, parce qu'en fait, on dit l'écriture au singulier, c'est un peu une mascarade, parce que y a la Bible, on traduit en singulier, mais en fait, ta Biblia en grec, c'est les écritures, avec un pluralisme formidable. Donc, comme norme, quand C'est pire que Normand. Normand, c'est ni oui ni non. Là, si on trouve un passage qui dit oui, on feuillette un peu, on trouvera un passage qui dit non. Donc, pour moi, ce n'est pas une norme normante, c'est plutôt, ce n'est pas une norme, c'est un réservoir de questions. Et donc, c'est plus un réservoir de questions qu'un réservoir de réponses. Et à mon avis, quand on le lit comme une réponse, c'est difficile parce que la vie est extrêmement particulière. Et donc, à un moment donné, par exemple, pour monter sur la montagne, vous voyez, quand on était scout, par exemple, il y a marqué, ben, tu fais 3 pas à gauche, tu fais 4 pas à droite, pour aller chercher le trésor. Si on vous dit, ben, il faut aller plein nord pendant 2 km pour trouver le trésor, ben, ça dépend où on est au départ. Quelqu'un qui est à une autre position, s'il fait 3 km vers le nord, ben, il va s'éloigner du trésor, parce qu'il était de l'autre côté. Et donc, la question est à trouver dans le texte, finalement. C'est une interpellation, c'est quelque chose qui vient interroger notre existence présente. C'est quelque chose qui nous... Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui fait norme? Eh bien en fait, ça va être, par exemple, ça va être l'écriture, mais interprétée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que personne d'autre qu'une personne donnée peut lire l'écriture, se poser les questions qu'elle pose, et pour porter sa réponse. Mais sa réponse... Ça va être dans une négociation entre la conscience personnelle et ce que Dieu peut, s'il veut, ou enfin je pense qu'il le veut quand même plutôt en général, éclairer la personne. Donc c'est une interprétation personnelle de l'écriture qui peut faire effet de parole de Dieu et à ce moment-là avoir peut-être le statut de norme. Donc le Saint-Esprit a un rôle à jouer. Alors c'est vrai que dans nos lectures ici, c'est une lecture relativement... Bon, on se place au-dessus du texte et on décortique le texte. Donc c'est une préparation finalement à la lecture priante que chacun va faire ensuite dans le secret de son cœur pour trouver la réponse. Mais après, peut-être la lecture peut être un peu plus scientifique que nous faisons dans un groupe comme ça. Eh bien, ça permet peut-être que chacun... dans sa lecture personnelle, pensera un peu moins n'importe quoi. Mais on ne va pas dégager une norme ou la réponse qui s'adresse à telle personne, je pense. Enfin, je ne sais pas.
Alors, moi qui croyais te faire plaisir, parce que là, on est à front renversé, c'est impressionnant. Parce que le cliché, enfin, l'image qui vient quand on évoque quelquefois la tradition protestante, c'est le sola scriptura, c'est-à-dire, oui, effectivement... non seulement un recours à l'autorité biblique, que je ne conteste pas, hein. D'ailleurs c'est très rabbinique ce que tu dis sur le côté questionnant, et l'entretien infini d'une certaine manière, oui, c'est plus juif. Mais effectivement, sola scriptura, on a beaucoup reproché aux catholiques souvent de moins bien connaître la Bible, quelquefois même de ne pas la lire. Je me souviens, moi qui ai appris à lire chez les filles du Saint-Esprit, elles me racontaient que c'était une congrégation bretonne, que la Bible était sous verrou jusqu'à dans les années 60, pour les filles du Saint-Esprit, justement, que tu évoquais. L'esprit qui inspire, effectivement. Et on était en plein XXe siècle, après les grandes reconquêtes bibliques de la théologie, etc.
C'est Vatican II qui a déverrouillé, alors, ou quoi ?
Vatican II a déverrouillé. C'était déjà en bonne voie depuis le début du XXe siècle, comme la liturgie. Mais c'est un travail très, très long, donc forcément on hérite, hein, dans les strates, dans les couches profondes de notre inconscient culturel, on a forcément ça, non pas une méfiance vis-à-vis de la Bible, mais enfin l'idée que la Bible, précisément, peut être interprétée dans un sens ou dans un autre, oui. Et que, voilà. Alors, quand je dis norme normante, c'est l'idée que la théologie catholique au Moyen-Âge s'est tellement coupée précisément de l'écriture, hein, de la vie, du puits de vie, de l'eau de vie qu'était l'écriture, qu'elle est devenue systématique, qu'elle est devenue un édifice absolument magnifique, intimidant. La somme de Thomas que je relis un petit peu là, c'est exceptionnel, et c'est pas du tout d'ailleurs ce que l'opinion a pu en faire. C'est très peu systématique parce que le langage n'est pas du tout univoque, mais en tout cas c'est une théologie qui s'était coupée de ses racines bibliques, et je crois que voilà, il faut nous laisser le temps de nous réapproprier progressivement notre bien commun qui est l'écriture sainte. Et puis aussi, cette idée que, effectivement, la théologie de l'inspiration, c'est-à-dire l'idée que, on a tous appris ça au catéchisme, que les textes bibliques sont inspirés, que l'Esprit Saint, évidemment, ne dicte pas de manière verticale, qu'il agit à travers la culture, à travers les références des écrivains, mais enfin quand même, que c'est quand même Dieu qui parle, ou en tout cas, si on veut entendre la parole de Dieu, on a peut-être plus de chances de l'entendre dans la Bible que dans l'Odyssée d'Homère ou dans l'Enfer de Dante. Encore que, moi, je pense qu'on puisse entendre, je pense qu'on peut entendre Dieu même chez Proust. Mais voilà. Donc, les théologies de l'inspiration, on pensait quand même qu'il ne fallait pas de libre examen. Vous savez, c'était lorsqu'on étudiait au lycée la réforme protestante, on parlait toujours du libre examen et qu'il fallait donc que l'interprétation, le consensus herméneutique, enfin, que l'interprétation soit un peu canalisée. Alors, par qui ? Évidemment, tout de suite, les questions de pouvoir entrent en jeu. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'ai appris au Theologicum de l'Institut catholique, c'est que l'écriture ne peut être inspirée que si elle est inspirante. Là, je pense que ça peut nous mettre d'accord. C'est-à-dire que l'écriture, même les plus grands textes, même l'Apocalypse, peut être absolument lettre morte, peut absolument être un objet patrimonial, quelque chose de dévitalisé, si il n'y a pas l'esprit aussi. L'esprit n'est pas seulement en amont, l'esprit est aussi effectivement dans la manière de recevoir.
Mais ça peut même être pire que l'être morte, c'est-à-dire, je peux le dire d'autant plus que c'était des protestants finalement, venus d'ailleurs de France, parce que avec la révocation de l'édit de Nantes, il y a beaucoup de protestants qui ont quitté le royaume de France. Ils sont allés en Suisse, en Hollande, en Angleterre, en Amérique et en Afrique du Sud. Et donc en Afrique du Sud, il y a des protestants qui interprétaient l'écriture pour justifier l'apartheid, en disant, dans les fils de Noé, il y a Sem, Ham et Japhet. Ham, ça veut dire le brûlé. Il fait une bêtise, il voit les pieds de son père. Bon, ça veut dire, il y a un problème sexuel quelque part. Et du coup, Dieu lui dit, en fait, c'est pas de chance, mais parce que tu as fait ça, eh bien, tu seras l'esclave de tes frères. Et voilà, alors voilà nos bons interprètes qui disent, grâce à ce verset, c'est normal, ceux qui sont brûlés, qui sont plus foncés, un peu plus grillés, ils sont les esclaves de ceux qui sont blancs. Donc une lecture de l'écriture, voilà, peut être tout à fait haineuse. Et j'allais dire en ce moment, avec le débat autour du statut de l'homosexualité, par exemple, il peut y avoir des lectures de l'écriture qui viennent massacrer son frère, sa sœur, sur ce qu'il est finalement, au nom de l'écriture. Donc oui, l'écriture sans le Saint-Esprit peut être lettre morte, il peut même être arme de guerre pour tuer, enlever dignité à son frère. Mais quand on dit sola scriptura pour les protestants, c'est l'écriture seule, mais en fait, il y a plusieurs seules. Alors il y a aussi la grâce seule, la foi seule, et au total, c'est l'écriture, elle n'est pas si seule que ça. Ça veut dire l'écriture seule à côté du pouvoir de l'Église ou du pouvoir de la tradition qui canaliserait justement une interprétation obligatoire. Eh bien non, ils ont dit que en fait c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est pas l'écriture elle-même qui est norme, c'est l'écriture interprétée par le Saint-Esprit. Donc évidemment, le Saint-Esprit, personne n'en est maître, comme dit Jean dans le chapitre 3, on ne sait pas ni d'où il vient ni où il va. Donc la question, c'est est-ce que l'interprétation est juste et fidèle à Dieu ou non ? C'est pour ça qu'il faut une certaine humilité. Quand on fait une lecture d'un passage biblique, il faut avoir toujours cette suspension du jugement en se disant peut-être que c'est ça que ça veut dire, ou peut-être qu'à travers ce verset, ce passage, c'est plutôt ça que Dieu me dirait, m'enverrait comme parole. Ensuite, comment est-ce qu'on sait si c'est vrai ou si c'est pas vrai ? Je dirais qu'on peut en discuter avec d'autres, on peut continuer à prier, mais c'est surtout a posteriori, ça a été parole de Dieu, mon interprétation d'un passage de la Bible a été l'occasion de recevoir une parole de Dieu, qui est une parole vivante, qui n'est pas la lettre morte, si, a posteriori, je suis plus vivant après avoir lu et interprété comme ça que non. Et donc, il faut être très pragmatique. Si mon interprétation de l'écriture m'amène à dire qu'un noir ne vaut pas la moitié d'un blanc, à mon avis, il y a un léger problème. Le Saint-Esprit, il y a eu du parasitage sur la ligne, parce que ça produit de la mort et non de la vie et de la fraternité, etc. Donc voilà, il faut être très pragmatique. C'est à l'effet, c'est à l'arbre, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Et voilà, donc effectivement, on dit aussi en rigolant, je ne sais plus qui disait ça, tout protestant est un pape, la Bible à la main. Alors la Bible à la main, oui, mais bon, il vaut mieux qu'il y ait le Saint-Esprit. Mais pour le pape aussi, quand il prend une décision, il vaut mieux que le Saint-Esprit ait soufflé.
Merci, très sympa. Oui, justement, alors deux choses. Effectivement, ce que tu évoques, à savoir que l'écriture peut être inspirante ou ne pas l'être, et qu'au fond, elle est inspirée quand elle est inspirante. Alors, c'est un peu un slogan, bien sûr, à manipuler avec des pincettes, parce que l'écriture n'est pas seulement subjective, évidemment. Peut-être l'Église catholique est très attentive à ce qu'il reste quelque chose d'objectif, c'est-à-dire quelque chose, un pôle sur lequel on puisse s'entendre sans que tout soit soumis à notre évaluation personnelle, pour qu'on ne soit pas amené sans cesse à faire du tri selon nos goûts, selon nos questions du moment, selon nos problématiques, voilà, selon l'actualité, comme on dit. Donc effectivement, il y a toujours cette tension entre une écriture qui est extérieure à moi, que je n'ai pas écrite, et puis l'interprétation qui est quand même soumise à cette objectivité. Je ne peux pas faire tout dire, je ne peux pas ployer l'écriture dans tous les sens. Mais de fait, c'est un bel exercice là pour nous, pour l'été qui vient, puisque vous serez en manque évidemment de groupes bibliques. Je crois que c'est un bel exercice spirituel de voir quand nous lisons l'écriture, quand nous faisons Lectio Divina par exemple, de voir à quel moment l'écriture n'est pas pour nous une source d'inspiration. Nous lisons des mots, alors c'est vrai qu'il y a des passages quand même ingrats dans la Bible, il y a des tunnels, hein, il faut dire les choses comme elles sont, alors quelquefois on se rattrape en se disant ça doit être très beau en hébreu, ou bien la description des vêtements du grand prêtre dans le Lévitique, c'est quand même, voilà, c'est un opéra de Bellini. Bon, mais enfin, on ne se convainc pas très longtemps, et voilà, mais je crois qu'il faut aussi faire cette expérience-là. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir le moment, et je pense qu'on a tous vécu ça, peut-être a-t-on l'impression de ne pas le vivre assez, le moment où ça bascule, où les eaux desséchées de la vision d'Ézéchiel prennent chair, et où tout d'un coup un verset nous parle, nous touche, ouvre en nous quelque chose et nous fait voir un peu notre environnement autrement, parce que c'est quand même ça le but, s'il y a un but de la lecture spirituelle de la Bible, ça n'est pas de relire une énième fois un récit qu'on connaît par cœur, c'est de nous laisser toucher. C'est très fascinant, quand je célèbre la messe, j'ai souvent cette expérience-là, parce que le site liturgique lui-même crée une solennité qui fait que je lis un texte et je le redécouvre. Et tout d'un coup, il y a un mot. Par exemple, il y a quelques jours, enfin je prends juste un exemple, je fais une parenthèse dans la parenthèse, c'était l'image du bon pasteur. Ah ben, c'était dimanche, voilà. Je ne prêchais pas, mais je prêchais à 9h. Et le bon pasteur, effectivement, c'est celui qui rassemble ses brebis, qui les connaît, etc. Mais quand on lit le texte de Jean, il dit « pour les faire sortir ». Et parce qu'on a souvent l'image inverse, on pense que c'est pour les rassembler, pour les blottir dans le bercail, dans l'enclos. Mais Jean dit l'inverse, justement. Et ils sortent et ils suivent le bon pasteur. Et ils savent qu'ils ne sont plus seuls, justement. Ils ne restent pas confinés dans l'enclos. Et je crois que, alors, le pape actuel est très sensible à ce genre d'image, bien sûr, dynamisante, pour aller vers les périphéries de l'Église, pour les zones précisément complexes, qui ne sont pas identitaires, qui ne sont pas communautaires. Mais là, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, nous sommes avec le bon pasteur. Et c'est cette expérience assez consolante encore que l'on va retrouver ce soir, d'une présence. Moi, je pense que finalement, l'écriture est inspirante lorsqu'elle nous dit une présence. Et il y a quelqu'un qui nous parle, et du coup, notre moi, la suffisance de notre ego, tout d'un coup, est un peu émondé. On sort un peu de soi-même, on dilate quelque chose en nous-mêmes, et quelquefois, ça peut même être sensible, ça peut être affectif.
Oui.
On a voilà, le plexus qui chauffe un peu, là, on se sent... Oui. Voilà.
Mais c'est là que l'écriture, on ne peut pas simplement la résumer en un contenu objectif. C'est-à-dire que c'est une expérience à ce moment-là dans la lecture, comme tu disais, qui provoque un changement de regard, qui provoque une ouverture sur quelque chose. Et puis, on voit qu'elle est très pluraliste. C'est-à-dire que dans la parabole que tu cites, là, voilà, que le bon berger, le bon pasteur, Jean 10, Jésus interprète cette parabole d'abord avec lui comme le pasteur qui rassemble ses brebis, qui les fait sortir pour trouver de la nourriture. Ensuite, il propose une deuxième lecture où il est à la porte, qui permet aux brebis d'entrer et sortir en liberté à ce moment-là, sans le berger. Dans cette liberté, mais là encore, pas simplement de sortir, mais aussi d'entrer et de sortir.
D'aller voilà. venir.
D'aller et venir. Voilà. Et ça, donc du coup, il y a la promesse de cette grâce, de cet accompagnement, et puis il y a la promesse de cette liberté, de cette émancipation même du berger, finalement. Et donc, mais ça, finalement, comme tu dis, j'ai beaucoup aimé ça, parce que c'est pas simplement de l'expliquer comme ça. Quand on l'explique comme ça, ça paraît simple, finalement. Mais comme tu dis, en le lisant, il faut s'imaginer le Christ, nous le disant pour qu'on le vive. Et donc, comme tu dis, avoir quelque chose au plexus qui nous ouvre à cette présence mystique du Christ.
Chakra christique.
Voilà. Et puis aussi de cette émancipation, de cette dignité de pouvoir entrer et sortir en liberté, de vivre notre vie dans le monde, de pouvoir aussi entrer quand on veut dans le bercail pour s'y reposer. Alors voilà, oui, l'écriture vraiment chaude, mais c'est une expérience. Il y a vraiment là dans la lecture personnelle de l'écriture vraiment des trésors de conversion, j'allais dire, de changement.
Tout à fait. Et du coup, je me permets une deuxième remarque avant qu'on lise le texte qui est magnifique d'ailleurs, et puis qu'on le situe peut-être un peu parce que ce sont des textes un peu difficiles. C'est quand même la fécondité de ce que nous vivons ici. Parce qu'après tout, ce groupe n'est pas seulement un groupe biblique, c'est le groupe écuménique biblique. Et il existe depuis plusieurs années. Marc est un historique, un pilier du groupe. Et c'est là qu'on s'aperçoit quand même qu'on est de la même famille. C'est impressionnant. Et que finalement, nous dialoguons au sein d'une même famille. Et que les ruptures historiques, qui sont des séparations, qui sont des schismes, pour dire le mot technique, sont toujours des négations de l'esprit, au fond, hein, de l'esprit qui unit, hein. Distinguer sans séparer, unir sans confondre. C'est le concile de Chalcédoine, Jacques Maritain a beaucoup repris ça. Et bien sûr, nos paroles sont distinctes, mais comme dans une famille, il est bon que les frères n'aient pas la même parole et qu'il y ait un dialogue, sinon il n'y a pas de conversation. Et la conversation, c'est aussi de croire que l'autre détient une vérité, quelquefois, qui permet d'accoucher ma propre vérité, et que la vérité qui s'élabore à deux est une vérité encore supérieure aux deux. Et que donc, évidemment, les séparations historiques ne sont pas viables et ne sont pas... je pense que l'expérience que nous faisons, non seulement du dialogue, mais d'une lecture amoureuse de ces textes où nous entrons en communion profonde de signification, a quand même, c'est un acte, je crois que c'est le moment, à la dernière séance, de le rappeler quand même, c'est important, parce que moi, ça me transforme forcément, et je crois qu'il faut faire le bilan modeste mais réel de ce genre d'échange. Nous sommes d'une même famille qui a connu, c'est comme toute famille, C'est son histoire et ses déchirures et ses retrouvailles. Voilà. Alors, l'Apocalypse, on va lire, c'est les deux derniers chapitres, magnifique. Vous savez que le grec de l'Apocalypse, c'est un grec très rudimentaire, qui fait dire d'ailleurs que c'est probablement un autre écrivain que le Jean, qui serait supposé être l'auteur de l'Évangile et des trois épîtres de Jean. Quelquefois, on a dit que c'était Jean l'Ancien, le presbytre. L'écrivain, le voyant de Patmos, est peut-être un troisième Jean, à vrai dire. Bon, c'est le même courant, hein, éphésien, fin du 1er siècle, peut-être sous Domitien. Hein, vous connaissez le chiffre 666 qu'on attribue à Néron. Domitien était vu comme un second Néron. Domitien était un des fils de Vespasien, voilà, frère de Titus, pour situer un petit peu historiquement. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, après tout ce qu'on vient de dire, en plus, sur la dimension inspirante de l'Écriture, l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, je pense que révélation de Jésus-Christ, dévoilement de Jésus-Christ, il faut l'entendre au sens actif, c'est pas au sens passif, c'est-à-dire c'est pas Jésus-Christ qui est révélé, il est révélé aussi, mais il est révélé dans toutes les Écritures. Mais c'est Jésus-Christ qui révèle. C'est moins Jésus-Christ révélé que Jésus-Christ révélant. Et je pense que, du coup, alors peut-être j'anticipe sur ce que tu vas dire, mais l'Apocalypse, il faut le lire comme un texte qui est toujours valable à toute époque et qui est écrit justement pour être une grille de lecture, non pas pour jouer à savoir qui est le méchant, qui est la bête, etc., mais pour voir comment notre propre combat spirituel et notre propre espérance, parce que c'est un livre très consolant, c'est pas du tout un livre d'Armageddon, pour voir comment ce livre nous parle aussi à chaque moment de notre vie.
Oui, moi, tout à fait. C'est-à-dire que je crois que c'est un style littéraire qui est différent des évangiles ou des lettres d'une lettre comme la lettre de Paul aux Romains. C'est, en fait, dans les romans, on connaît ça aussi. Ça s'appelle la science fantasy, avec des dragons, avec des figures extraordinaires, avec des étangs de feu, etc. Mais c'est un style littéraire, un style littéraire qui est reconnu, en fait, qui existait en dehors de l'Apocalypse. Ça existait dans les évangiles. Il y a des, Jésus donne des toutes petites apocalypses qui durent, je dirais, quelques paragraphes. Mais il y en a d'autres dans l'Ancien Testament et c'était un style littéraire relativement connu. Mais comme tu dis, c'est-à-dire que ça révèle Jésus-Christ, donc forcément, c'est encore de l'Évangile. C'est-à-dire qu'il faut le lire, à mon avis, il faut le lire, comme tu dis, au présent, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher dans le 666, par exemple, y savoir si ça fait Néron, si ça fait Dioclétien, si ça fait je ne sais pas quoi.
Domitien.
Ou... la question, c'est de savoir y reconnaître... plutôt le signe de quelque chose qui est néfaste, négatif dans notre existence, quel que soit ce qui est négatif. On a tous finalement des choses qui nous tirent vers le bas, des choses qui sont peut-être démoniaques, au sens où il y a une sorte de, comment dire, je crois pas moi aux existences de démons, c'est-à-dire de créatures négatives qui nous auraient infectés ou je sais pas quoi. Je pense qu'il y a des dysfonctionnements qui sont les nôtres, qu'on peut appeler péché, par exemple quand c'est une rupture avec Dieu, qui peut être des problèmes de faiblesse personnelle, de manque de développement. Mais bon, on a tous nos difficultés. Ça peut être des souvenirs, des blessures anciennes qui continuent à nous poser des difficultés, des problèmes, des souffrances, des dysfonctionnements. Enfin bref... quand on parle donc de ces 666, c'est pas Néron plus qu'un autre, c'est plutôt ce qui est néronesque en moi, peut-être, si on veut, ou négatif en moi. Et donc l'Apocalypse, ça parle, je crois, de la conversion de la personne humaine, de l'humanité, du monde, par la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Et donc ça parle d'un basculement, ça parle d'une conversion, ça parle d'une consolation aussi, parce que consolation et conversion, c'est la même chose dans l'Ancien Testament, finalement. ça parle de ça. Et donc il faut le lire non pas comme une menace, mais encore comme un évangile, comme une bonne nouvelle, que la mort en nous, les larmes, ce qui nous fait pleurer et mourir, va être éliminé par l'amour de Dieu. Et donc il faut y lire toujours une bonne nouvelle, jamais une menace. S'il y a quelque chose de terrible qui arrive, c'est quelque chose de terrible contre ce qui me tue, me blesse et me fait souffrir, ou ce qui tue, blesse et fait souffrir l'humanité, en fait, et le monde, puisque Dieu aime ce monde. Donc c'est à nous de trouver, voilà, l'interprétation pour y trouver l'évangile que Dieu a pour nous en réserve aujourd'hui.
Je suis d'accord, évidemment. Quand même, il y a un contexte historique qui est un contexte difficile, violent, avec des personnes qui sont mises à mort pour leur foi. Il y a ceux qui rechutent, il y a des relapses, des lapsies, etc. Donc il y a quand même un contexte assez dramatique. C'est sûr qu'Origène, dès le IIIe siècle, va faire une lecture spirituelle, hein, par exemple de la fameuse allusion au millénium, c'est juste avant, hein, les 1000 ans, pendant lesquels les saints régneront avec le Christ. D'ailleurs, on trouve ça déjà dans la première aux Corinthiens, hein, l'idée que le Christ ressuscite, puis ceux qui sont au Christ, puis le Christ qui soumet tout à ses pieds, etc. Il y avait quand même une théologie du temps qui essayait de peut-être de combiner la pensée grecque avec le messianisme juif. Mais de fait, je pense qu'il faut avoir en tête, quand on lit l'Apocalypse, tout ça. Il y avait, depuis l'exil à Babylone, l'attente d'Israël, c'était la restauration quand même d'un royaume historique, d'un royaume certes idéalisé, mais quand même historique, un royaume en ce monde. C'était ça l'attente d'Israël. Il y avait un deuxième courant plus pessimiste que l'on trouve chez Daniel, qui avait une vision plutôt décliniste de l'histoire et qui pensait que seul Dieu pouvait intervenir et qui était donc moins messianique. Et puis, il y avait la vision grecque, le retour de l'âge d'or, hein, le retour cyclique d'un âge d'or, etc. Il y a toujours eu une attente dans les peuples de l'Antiquité. Moi, je pense que l'Apocalypse, c'est un peu un essai de dépassement et, avec l'allusion au millénium, donc d'une restauration royale, d'un roi davidique, hein, d'un roi messianique. Messie, c'est celui qui a l'onction, hein, l'onction royale. Il y a la prise en compte très pessimiste d'une théologie de l'histoire où seul Dieu peut intervenir, in fine, parce que le monde est tellement pourri, etc. Une vision très sombre, qui n'est pas étrangère d'ailleurs au monde johannique. Et puis, cette vision grecque de l'attente d'un âge d'or. Alors, voilà, je pense que c'est un peu ça le contexte. Mais de fait, saint Augustin, Origène, etc., très vite, vont avoir une lecture spiritualisante. Augustin verra même, dans la première résurrection, pour lui, c'est la conversion, comme tu dis. Comme chez Paul, d'ailleurs. Mais parce que ce sont des gens, Paul et Augustin, sont des gens qui ont vécu une conversion radicale. Ce n'est pas toujours le cas de nous. Et on voit bien que chez Paul, Paul a du mal à comprendre les gens qui, une fois qu'ils ont rencontré le Christ, retombent dans leur bassesse, dans leur mesquinerie. Augustin aussi a du mal à comprendre. Ce sont des gens très, très radicaux. Il y a un avant et un après. Et donc, pour eux, c'est une résurrection. C'est le sens du baptême, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'on peut dire là-dessus, d'ailleurs.
Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est clair que tous les textes, mais Ésaïe aussi et l'Évangile aussi, chaque Évangile est écrit dans un contexte d'un auteur qui l'écrit dans le contexte, dans les questions qui se posent à son époque. Et donc, pour pas tout à fait dire n'importe quoi, on est évidemment obligé de s'ouvrir un petit peu au contexte historique d'énonciation, de rédaction de ces textes. Mais ensuite, à mon avis, dans la pensée de l'époque, la théologie et ce qui arrive, ce n'est pas sans rapport. Et donc, quand ils écrivent par rapport au contexte de l'époque, ils font encore de la théologie et de la prédication qui dépassent le contexte de l'époque. Et donc, je crois qu'on peut y chercher... ils parlent toujours à ces deux niveaux en même temps, en fait. C'est toujours Il y a toujours les deux sens, à mon avis, dans le sens littéral. Mmh. Et donc, oui, quand ils parlent de la résurrection de Jésus, quand ils parlent, par exemple, quand ils parlent de la guérison de la vue d'un aveugle ou de la résurrection de Lazare, bien entendu, ça parle aussi de la conversion, c'est-à-dire de l'ouverture des yeux du cœur quand on parle de la guérison de l'aveugle. D'ailleurs, on le voit dans la finale de l'Évangile selon Jean, la première finale à la fin de Jean 20. Donc on nous dit, voilà, ces choses qui sont arrivées, c'est des signes, les signes que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il faut interpréter, même quand c'est raconté comme un récit ou dans un contexte historique, ce qui nous est raconté, il l'est raconté parce que c'est un signe qui doit être décrypté comme quelque chose que nous avons à vivre spirituellement. Donc même s'il y a eu la guérison d'un aveugle physique, en nous le racontant ici, ce n'est pas pour nous raconter l'histoire de l'aveugle dont la personne n'a rien à faire, puisqu'il vivait largement avant et que machin. Ce n'est pas pour nous montrer que Jésus est grand, beau et fort, mais c'est parce que à l'occasion de ce récit, il y a quelque chose qui se joue d'un salut universel. Donc à mon avis... Ensuite, je ne sais pas si ponctuellement ça s'est exactement passé comme ça s'est raconté, parce que il y a vraiment, c'est mis en récit, mais s'il y a eu effectivement un aveugle dont les yeux ont été ouverts et que physiquement il a été guéri, quand on nous le raconte dans les évangiles, ce n'est pas simplement pour nous faire de l'histoire, pour nous raconter le fait divers, c'est parce que c'est signifiant pour le salut au sens spirituel allégorique. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire « ces textes sont seulement allégoriques », où ces textes sont historiques, en disant, voilà, alors machin, il faut identifier, alors tel passage, c'est les Juifs, c'est les Sadducéens, c'est je ne sais pas qui. Non, parce que finalement, on s'en fiche, et l'auteur aussi s'en fiche un peu, en fait. Il fait de la théologie, il fait de la prédication, et quand il raconte l'Apocalypse, bien sûr, c'est dans un contexte où les gens sont persécutés, mais bon, il n'y a pas que sous Néron que les gens ont été persécutés. Jésus s'est quand même fait exécuter pour des questions comme ça. Donc, il y a eu toujours plus ou moins des persécutions. Donc, bien sûr, c'est exprimé l'Apocalypse dans un contexte de persécution pour consoler les gens, pour qu'ils prennent courage devant l'attente du royaume qui ne vient pas et qu'ils espéraient venir peut-être d'une façon extraordinaire. Mais ce faisant, Ils se font l'exégète de notre propre vie et pour nous dire, voilà, eh bien, cette conversion, ce changement de mentalité, de regard, ce changement de logiciel qui est offert en Jésus-Christ, eh bien, vous pouvez le vivre maintenant comme un bouleversement de votre monde, comme une vraie consolation. Quand on dit, voilà, il n'y aura plus de larmes à vos yeux, ce n'est pas simplement pour le paradis, la vie future. C'est quelque chose à vivre maintenant par la conversion, par le Jésus-Christ qui vient dans notre existence. Donc c'est pas simplement politique pour dire ben, quand ce salaud de Néron sera parti, on aura un empereur qui sera plus sympa, ou bien Jésus-Christ va chasser Néron, va revenir sur un nuage et puis chasser Néron, ou bien dans le paradis vous serez plus heureux. Non, c'est bon, il peut y avoir une attente de ça, mais ça parle d'abord, à mon avis, d'une conversion de la personne et d'une consolation à recevoir spirituellement, dans le sens littéral du texte.
Si, je pensais aux béatitudes en même temps, parce que vous allez voir que ces textes sont un tissage. C'est même très émouvant, lorsqu'on est un peu nourri, façonné par les textes bibliques, de retrouver... Bon, alors, il y a... un tissage de textes plus anciens, des prophètes, des psaumes, etc. Mais aussi, c'est très frappant pour un catholique ou un protestant, un certain nombre de formules qu'on va retrouver là ont été reprises dans des chorales, ou ont été reprises dans des cantiques, des hymnes de la liturgie. Vous allez le voir. Alors, qui veut bien lire le chapitre 21 ? Bénédicte ? Non, ou je ne sais pas. Je trouve une voix de femme, ça change, c'est pour ça. Ou Paul, ou... On essaie ? Et puis, vous ferez le 22. Voilà.
Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis venant du trône, une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il dit « Écris, ces paroles sont certaines et véridiques. » Et il me dit « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive, gratuitement. » Le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part se trouve dans l'étang embrasé de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Alors l'un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines des sept derniers fléaux vint m'adresser la parole et me dit « Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle brillait de la gloire même de Dieu. Son éclat rappelait une pierre précieuse, comme une pierre d'un jaspe cristallin. Elle avait d'épais et hauts remparts. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms inscrits, les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes, et à l'occident, 3 portes. Les remparts de la cité avaient 12 assises, et sur elles, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la cité, ses portes et ses remparts. La cité était carrée, sa longueur égalait sa largeur. Il la mesura au roseau, elle comptait 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura les remparts, il comptait 144 coudées, mesure humaine que l'ange utilisait. Les matériaux de ces remparts étaient de jaspe, et la cité était d'un or pur, semblable au pur cristal. Les assises des remparts de la cité s'ornaient de pierres précieuses de toutes sortes. La première assise était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. Et la place de la cité était d'or pur, comme un cristal limpide. Mais le temple, je n'en vis point dans la cité. Car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La cité n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et son flambeau, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront pas au long des jours. Car en ce lieu, il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera nul souillure, ni personne qui pratique abomination et mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'année.
Merci beaucoup. Alors, c'est un texte impressionnant, d'autant plus qu'on sait que ce sont les deux derniers chapitres de la Bible. C'est quand même pas rien. Ça fait pendant, et les gens qui ont canonisé les textes, ça fait pendant au récit de la création, hein, et au récit de la création de l'homme. Tout ça n'est pas innocent. Je crois qu'il faut savourer. Si vous permettez, j'ai envie, puisqu'on voilà, on peut être un peu récréatif en fin d'année, de reprendre les images les unes après les autres pour montrer à quel point elles ont été fécondes dans l'art, et puis peut-être pour qu'on essaie de, voilà, de les faire un peu vibrer en nous, parce que voilà, c'est quand même un condensé, un concentré, c'est du brut là, de brut de pomme, d'orange, un concentré de toute l'imagerie, de tout l'imaginaire chrétien. Et après tout, on a vu ça sur des, il y a la tapisserie d'Angers, il y a les vitraux, beaucoup de vitraux modernes, de maîtres vitriers modernes se sont inspirés de l'Apocalypse. Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Voilà, donc l'idée du ciel nouveau et de la terre nouvelle. Ensuite, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Voilà, c'est quand même un texte source pour ça, cette idée de la Jérusalem céleste. Une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est une réminiscence. On pense au prophète Osée, hein, ou l'épouse qui part au désert, vous vous souvenez, qui s'est prostituée. Voilà. C'est une image qui vient des prophètes. Voici la demeure de Dieu avec les hommes, ou parmi les hommes. Dans certaines églises, certaines cathédrales, c'est écrit sur les frontons, hein, Haec Domus Domini. Le Dieu qui est avec eux. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est Jésus, c'est le Christ. Alors il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, voilà, ça reviendra à nouveau dans le chapitre 22. Le monde ancien a disparu. Voilà, c'est un choral luthérien, le monde ancien s'en est allé. Un nouveau monde est déjà né. Nous, nous le chantons pour le temps de l'Avent. Le monde ancien s'en est allé. Un nouveau monde est déjà né. Voilà, ben ça vient de là aussi. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ça, c'est superbe. Souvent, beaucoup de gens me citent cette phrase, ils veulent savoir d'où ça vient. Ben, c'est là. Je me souviens de ce film qui avait fait polémique il y a 10 ans, La Passion de Mel Gibson, qui n'était pas un très bon film, mais à un moment, le moment qui m'avait le plus touché, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez supporté le spectacle. Bon. À un moment, on voit le Christ qui rencontre sa mère et qui lui dit « Vois comme je fais toutes choses nouvelles. » Voilà l'origine. « Je suis l'alpha et l'oméga, bien sûr. » Ça nourrit toute l'iconographie. « La source d'eau vive, ça vient d'où ?» C'est la Samaritaine, oui. C'est le puits de Jacob. Alors, dans l'évangile, oui, tout à fait. Et puis aussi la vision d'Ézéchiel, le temple. Vidi aquam, j'ai vu l'eau vive
qui dégouline du temple.
Qui jaillissait du côté droit du temple, etc. C'est superbe, d'ailleurs. Donc, vous avez une espèce de, vous voyez, de contamination de plusieurs. C'est ça qui, à mon avis, fait l'extrême richesse, hein, de ce texte. La source d'eau vive, gratuitement. Isaïe, on l'a lu pendant la vigile pascale, justement avant la bénédiction de l'eau. Et ça, c'est très beau. Hein. Venez consommer gratuitement, venez, il y aura du lait, de l'eau, etc. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Je vais dans l'ordre du texte. Hein. On pense bien sûr à... Je pense que c'est Samuel 7, non, la prophétie de Nathan. Je serai pour lui un Dieu, il sera pour moi...
Oui, c'est avec David. Hein.
C'est David, ah, oui. C'est le chapitre 7 de Samuel. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Effectivement, c'est ce que dit Nathan à Samuel. Alors après, vous avez une liste des gens pas bien qui sont jetés dans l'étang embrasé de feu et de soufre. C'est l'origine de notre enfer. Voilà. L'enfer médiéval, l'enfer de Dante, la seule source, c'est ça. C'est l'étang embrasé de feu et de soufre. C'est assez extraordinaire, quelqu'un me l'a dit l'autre jour, de voir à quel point l'Apocalypse, quelquefois, on a pris un mot et on en a fait 2000 ans de... Alors, les tympans des églises, les cauchemars des enfants, la Divine Comédie, ce qui est quand même pas rien. Eh bien, ça vient de là. C'est comme le millénium, à un moment, on parle de 1000 ans et ça a échauffé les esprits. Et jusqu'au millénarisme américain du 19e siècle, ou les millénaristes marxistes, etc., ou luthériens d'ailleurs, puisque Münzer était un millénariste. Ensuite, si on continue, vous avez les sept anges, bien sûr, qui correspondent aux sept flambeaux, à la menorah. La fiancée, l'épouse de l'agneau, ça c'est encore l'image d'Osée. Vous voyez, vous avez deux images en une là, à la fois l'image de l'épouse et puis l'agneau. L'agneau. Ce qui est assez johannique, ce qui montre qu'il y a quand même des liens avec l'évangile de Jean. Hein. De même que de parler de la femme aussi. Femme, voici ton fils. La femme conduite au désert, etc. Enfin, pour parler de la mère, on en parle comme de la femme. Puis vous avez à nouveau la cité sainte qui descendait du ciel. Ça a été représenté dans des icônes aussi, hein, comme un cube. Parce que vous allez voir après. Longueur, largeur, hauteur identique. C'est un cube. La cité sainte, c'est un cube, avec des murs transparents et l'intérieur en or. Des églises orthodoxes russes ont essayé de retrouver ces proportions-là. On trouve en pleine steppe, tout d'un coup, une église qui est un cube. C'est ça, c'est la Jérusalem céleste. Alors, Saint-Eustache n'est pas de la Jérusalem céleste, c'est le temple de Jérusalem et les proportions de l'Arche de Noé. Puisqu'à la Renaissance, on était fasciné par... toute cette cabale, toute cette symbolique. Ensuite, vous avez les 12 portes, évidemment, les 12 tribus et les 12 apôtres. Ce qui nous fait dire que l'auteur n'est pas l'un des 12 apôtres. C'est une des traces du problème. Peu importe, mais... parce que c'est quelquefois une question qui est posée. Ensuite, vous avez le roseau d'or, qui a beaucoup fasciné. C'est une image un peu ésotérique. Il y a même une collection dans les années 30 qui s'appelait... le roseau d'or. Puis vous avez la description, évidemment, voilà, avec les matériaux, les dimensions. Tout ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas, parce qu'il faut arriver à se représenter quelque chose, même si évidemment, ce qui compte, c'est qu'il n'y a pas de temple. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Le temple, c'était la présence de la gloire, la kabod, la gloire, le poids de Dieu. Il n'y a plus besoin, puisqu'il est tout en tous. Ensuite, vous avez les nations qui marcheront à sa lumière. Les rois de la terre apporteront leur gloire. C'est une paraphrase d'un psaume, hein, les rois de Tarsis qui viendront de Saba, de Sheba, etc., qui apporteront les présents. Un psaume que l'on chante pour l'épiphanie. Il n'y aura plus de nuit, à nouveau. L'honneur des nations, les goy, les goyim. Les nations sont prises en compte, c'est une vision universaliste. Et puis le livre de vie de l'agneau. Vous avez l'arbre de vie et le livre de vie. Hein, ce sont des images, voilà, je pense que c'est important d'avoir en tête que c'est ça la source princeps, c'est là. Voilà, c'est un peu fastidieux, excusez-moi, mais ça permet de fixer un peu l'imaginaire.
Mais alors c'est vrai qu'ensuite, chacune de ces images, elles sont là et porteuses de finalement, voilà, je crois, de l'Évangile. Par exemple, si on commence au début avec cette histoire de cieux nouveaux et de terre nouvelle, la première terre a disparu, la mer n'est plus, ben ça annonce la nouvelle naissance qu'on a dans Jean 3, par exemple, c'est-à-dire une nouvelle, on est dans une nouvelle création, comme tu disais, c'est en parallèle avec Genèse 1. Mais c'est ce qui est annoncé dans le prologue de Jean. Voilà, on est enfant de Dieu par la chair et par le sang, puisqu'il est le créateur de la création, bien sûr. Mais on nous propose d'être en plus engendré par l'Esprit, c'est-à-dire de devenir enfant de Dieu par l'Esprit. Et donc là, on a l'idée d'une création qui est continue avec un processus d'hominisation, un processus de création de l'enfant de Dieu dans... Alors, de quoi parle-t-on? Voilà, de création de l'homme ou d'une nouvelle création, dans quoi? Alors, visiblement, c'est à la fois la personne individuelle et à la fois c'est l'humanité tout entière, parce qu'on parle « ces peuples », en fait. « Ces peuples », à la fin du verset 3, bon, il n'y a pas les numéros là, mais... donc, en fait, c'est, comme tu disais, c'est l'humanité tout entière, en fait, largement au-delà de l'Église, tous les peuples. Et puis, c'est en fait chaque personne aussi. C'est chaque personne aussi. Donc, cette idée de création en cours, finalement, c'est assez intéressant, ne serait-ce que dans la question de la réponse de l'existence du mal dans le monde. Oui, il y a encore... La mer, c'est-à-dire, c'est un symbole du chaos, de la maladie, des catastrophes, de ce qui ne va pas dans ce monde. Ça ne vient pas des démons, ça ne vient pas du diable. C'est la mer, c'est-à-dire du désordre. Du... progressivement, la création de Dieu est en cours et elle est en train de, elle est en train de se réaliser, enfin. Et la toute-puissance de Dieu, là, parce qu'il y avait le mot Dieu tout-puissant, c'est très rare, en fait. Ce n'est que dans les textes. Littéralement, il y a le mot Dieu Tout-Puissant que dans les textes qui parlent de la fin des temps, comme ici dans l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas une seule fois l'expression Dieu Tout-Puissant. C'est simplement dans le traducteur, là parfois ajouté, mais c'est un peu un mensonge en fait des traducteurs. Là, il y est vraiment un Pantocrator, Dieu Tout-Puissant, au verset 22. Mais oui, c'est la fin des temps quand effectivement la création sera arrivée à son terme. À ce moment-là, la toute-puissance de Dieu sera réalisée. Pour l'instant, Dieu est puissant, il participe à cet élan de création. Alors, il y a toujours un petit peu dans ce texte, il y a toujours du passé, du présent et du futur qui se mélangent, qui vont et qui viennent. Et à mon avis, ça montre bien à la fois la promesse de ce qui va finir par être réalisé, et puis que c'est encore en cours, encore en train de venir. Et ça, on le retrouve très souvent dans l'Évangile, comme tu parlais des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux, les cieux est à eux au présent. Donc on est toujours, il est déjà là le royaume dans l'évangile. Il est là en Christ. Et en même temps, il est toujours à attendre. J'ai fait toute chose nouvelle au passé. Comme le Christ dit, tout est accompli sur la croix. Et pourtant, tout reste à faire à la limite. Donc vous voyez, on est toujours dans cet entre-deux où tout est déjà donné et en même temps, il faut... C'est encore en train de se déployer, voilà. Alors cette cité sainte aussi, vous voyez, on la voit qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse séparée pour son époux. Et donc vous voyez, là je vois une sorte de paradoxe un peu aussi. Elle descend du ciel, cette Jérusalem. Alors cette Jérusalem, c'est bien sûr pas la Jérusalem, le tas de cailloux qui est quelque part en Israël, Palestine, qui est loin, loin, loin d'être la cité de la paix, vous voyez, je veux dire, parce que Jérusalem, ça veut dire... la fondation de la paix ou bien l'enseignement de la paix, on ne sait pas. Donc je veux dire, comme enseignement et comme fondation de la paix, Jérusalem, c'est le chef-lieu des disputes, même entre chrétiens. Vous voyez, on se dispute entre les différents courants pour savoir qui va être maître du Saint-Sépulcre. On en parle encore beaucoup, ou de je ne sais pas quoi. Donc là, ce n'est pas la Jérusalem en Israël, Palestine. Depuis l'exil à Babylone, ils savent très bien que Jérusalem, c'est sous les pieds du juif qui prie, finalement. Enfin, tous ceux de la diaspora le pensent. Il y a quelques fous furieux de la Terre Sainte ou du lieu géographique qui sont retournés en... voilà, mais sinon, les autres sont restés depuis... voilà, si on a traduit la Bible en grec en moins 300 de l'hébreu, c'est parce que la plupart des juifs ne connaissaient plus l'hébreu, en fait. Et donc, Jérusalem, ici, elle descend du ciel. La vraie Jérusalem, elle descend du ciel, la cité sainte. C'est pas un lieu saint. C'est la cité sainte, elle ne descend que du ciel, c'est une cité spirituelle. Alors elle descend du ciel, donc c'est un don de Dieu finalement, c'est pas bâti par l'homme. Et pourtant, comme une épouse séparée pour son époux, donc c'est comme l'humanité qui se prépare pour Dieu. Donc vous voyez, il y a un peu comme un paradoxe un peu là. On retrouvera ce paradoxe plus loin, il y a marqué au verset 7, « Le vainqueur recevra cet héritage ». C'est la même chose, le vainqueur c'est celui qui s'est bien battu. Et c'est un héritage qu'il reçoit. Donc l'héritage, c'est le type même de ce qui est donné, et ce n'est pas le salaire. Donc il y a toujours un peu, si vous voulez, ce qui pourrait réconcilier catholiques et protestants, bien qu'on n'a pas attendu, je veux dire, maintenant pour le faire, puisqu'il y a un accord en 99 sur la grâce de Dieu et la place de la foi dans ce processus de la grâce qui infuse en nous et dans l'humanité. Donc c'est bien ça qui est en cause, si vous voulez.
Les réformés, non, sinistre.
C'est les luthériens, mais c'est la même chose, on est en communion complète. Luthériens, anglicans et réformés.
Grâce à eux, ça passe.
Ça passe, ça infuse, voilà.
Okay.
On est en communion de chair et d'autel entre luthériens, anglicans et réformés.
Ah, mais tout va bien, alors, donc.
Ça va pas si mal, oui, en fait.
On est ringarde.
Ça va pas si mal.
On est has-been.
Donc, oui, je crois qu'on pourrait l'être, d'ailleurs, franchement. On pourrait très bien communier ensemble. Je vois pas très bien pourquoi on n'a pas le droit de communier ensemble. Ça me paraît surréaliste. Mais
on s'était dit, d'ailleurs, que le groupe écuménique... Alors, là, c'est un peu tard. Mais un jour, on le fera.
Bah, à la messe de minuit. À la messe écuménique de minuit avec
Noël.
On peut
imaginer la messe de rentrée.
À 11h30, dans la Bourse du Commerce.
Oui, ouais.
Le 25 décembre au soir. 24 décembre au soir.
Oui, mais on ne l'avait pas suffisamment préparé entre nous, ce qui fait que moi, j'étais ordonné depuis 3 jours, donc j'étais... Tout à fait.
Donc là, vous voyez, il y a l'idée... Vous voyez, c'est toujours... en même temps, ça nous appelle à bien se battre, à ne pas être un voleur, un menteur et un je ne sais pas quoi. Et en même temps, c'est un héritage, c'est un don, c'est cécité, elle vient du ciel. Il y a l'idée, de toutes les idées que tu disais, il y a tout un catalogue des alliances, des alliances... de l'Ancien Testament, reprise par l'Évangile. L'idée des épousailles, c'est un type d'alliance avec Dieu, en fait, qui est très sympathique. Au lieu d'être une alliance, comme dans certains passages de l'Ancien Testament, entre deux rois, finalement, en disant chacun fait sa part de boulot et puis on fera la paix entre Dieu et les hommes. C'est pas ce type-là. C'est pas non plus le grand roi avec ses sujets qui attendent en tremblant savoir si le grand roi tout-puissant va leur couper la tête ou leur faire grâce. Non. Un mari et femme, c'est vraiment un choix personnel basé sur l'amour, sur la fidélité, vraiment, c'est une alliance qui est la plus en parité qui est proposée ici. Mais l'alliance, on la retrouve aussi juste après. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. C'est en fait, voici la tente de Dieu avec les hommes. La tente, c'est comme un camping, comme... Abraham dans son chemin, ou bien comme le tabernacle, vous voyez, la tente de la rencontre avec Dieu qui accompagne son peuple dans la route, dans le chemin, dans le désert.
C'est une reprise de Zacharie d'ailleurs, l'image de la fête des tabernacles.
Ah oui.
Apparemment, c'est. Oui.
Donc c'est l'idée vraiment d'une vie comme un pèlerinage, comme un cheminement, une sortie de l'esclavage pour entrer dans la vie éternelle. Donc ça, c'est une. Il nous dit que ça, c'est en cours dans notre existence, finalement. L'exode, la relecture de la Pâque. La Pâque est à vivre dans le temps présent à travers ces images-là. C'est explicitement la Pâque. On le retrouve avec l'agneau aussi, si vous voulez. Il y a tout. Et la gloire de Dieu aussi. La gloire de Dieu, c'est dans l'exode, dans le livre de l'exode, c'est la Shekinah, la présence de Dieu, la nuée ardente. Voilà, c'est ça la gloire de Dieu. C'est-à-dire, c'est la présence active de Dieu pour nous éclairer dans les ténèbres, pour nous marquer un chemin dans le désert pour aller vers la vie, pour nous révéler aussi des paroles qui sont les paroles d'une alliance avec Dieu et d'une alliance entre nous pour pas trop nous tuer les uns les autres. Donc tout ça, c'est des références, à mon avis, qui nous invitent à vivre dans notre présent l'expérience de la Pâque juive, de cette libération par la grâce de Dieu, mais en même temps, il faut quand même bouger les pieds pour avancer. Je crois que c'est une lecture méditative de l'Ancien Testament, finalement, pour qu'on la vive en se disant, c'est un héritage. C'est-à-dire qu'avec Christ, on peut vivre ce cheminement de conversion de soi-même et de l'humanité, finalement. Moi, je le lirais comme ça, un peu. Et c'est les temps de feu et de soufre que tu disais. On en a quand même un peu dans les évangiles. Par exemple, la fin de la parabole du jugement des nations, ceux qui, les boucs, ils vont être envoyés dans les flammes de la Géhenne, avec des flammes qui ne s'éteignent pas. Alors, est-ce que c'est une menace de l'enfer? Moi, je ne crois pas. Parce que, si vous voulez, le feu et le soufre, c'est typiquement... les agents de purification du minerai pour transformer le minerai en or, et puis aussi le soufre, c'est pour éliminer la vermine, en fait. C'est pour c'est un agent de désinfection.
Prophylactique.
C'est prophylactique. Et donc, ce n'est pas l'annonce de torture éternelle, c'est au contraire l'annonce d'une purification. Et la seconde mort que promet ce feu et ce soufre, c'est pas une éternité d'agonie dans des souffrances terribles que Dieu aurait voulu ou permise, ce qui est insupportable à mon avis quand on regarde le Christ, qu'il puisse vouloir torturer qui que ce soit, ni dans cette vie présente ni dans cette vie future. Mais plutôt la seconde mort, c'est que ce qui en nous est infidèle, qui n'est pas infidèle en ce monde, je veux dire, faut pas rigoler. Alors les infidèles, bon. Alors on est infidèle à combien de pourcents? Au-delà de 50%, on est considéré comme infidèle, ou à 49,5% on est encore fidèle? Je veux dire, c'est impossible. Donc tout ce qui est infidèle en nous, ce qui est dépravé en nous, ce qui est meurtrier, parce qu'on ne tue pas seulement quelqu'un avec une mitraillette, hein, les impudiques. Bon, je veux dire, il y a de l'impudicité en courant tout nu dans la rue, mais il y a aussi des paroles qui sont impudiques. Il y a aussi, enfin, je veux dire, bref, les magiciens qui ne croient pas un peu aux choses magiques. L'idolâtrie, je veux dire, quand je me regarde dans la glace et que je me trouve pas si mal, c'est, je veux dire, j'ai raison. Mais si j'exagère un poil trop, ça devient de l'idolâtrie de moi-même. Si vous voulez. Si je suis cramponné à mes convictions, à mes dogmes, à ma théologie, machin, j'idolâtre ma lecture de la Bible, ma petite théologie, et, je veux dire, qui ne l'est pas? Menteur, qui est 100% pur vérité. Enfin, bref, bon, toutes ces dimensions-là, qui ne peut pas se reconnaître derrière chacun de ces mots? Et donc, l'étang de feu, il est pour qui? Ben, il est pour chacun de nous. Ce jugement, il traverse chacun. Ben oui, on enlève. C'est une promesse d'un vrai service, d'un secours, d'un cheminement dans le désert pour sortir de l'esclavage, de la lâcheté, de l'infidélité, de la dépravation, du meurtre et de l'impudicité, je ne sais pas quoi. C'est une promesse, en fait, de salut de Dieu, de nous rendre plus humains, finalement, de poursuivre cette création. Et la seconde mort, ben, c'est que Dieu élimine ce qui est déjà mort en moi, parce que ce qui est menteur en moi, la première victime, c'est peut-être mon frère que je calomnie. Mais la seconde, ou des fois la première, c'est moi-même qui, avec une façon d'être tordue, est prisonnier de ma vie, de mon regard, de ma mentalité menteuse. Et donc, Dieu élimine ce qui est en moi mort et source de mort. Donc, c'est la mort de la mort, en fait. Oui, c'est la mort de ce qui est mort en moi, ou de ce qui est source de mort en moi, et dans le monde. C'est pas simplement le petit moi individuel qui est sauvé, c'est aussi l'humanité tout entière comme un corps qui est amené à être purifié en éliminant ce qui est mort. Alors là, on pourrait voir Jean 15 avec le cep, les sarments, le père qui est le vigneron, qui émonde, qui taille la vigne. Quand on taille une vigne, c'est pas pour la torturer, c'est pour lui permettre d'être plus féconde, d'enlever les branches mortes ou les branches qui tire de la sève inutilement, donc qui est source de manque de fructification. Donc non, c'est un service rendu. Et là encore, c'est de l'évangile, c'est encore de la bonne nouvelle. Alors ensuite, il y a toute cette formidable image. On est transporté en esprit sur une haute montagne. On voit bien là donc que c'est une expérience spirituelle à laquelle nous sommes invités par l'esprit, de pouvoir avoir une hauteur de vue, une élévation qui nous permet de voir... De voir la vraie vie, finalement. Alors, cette vraie vie, elle est comme... Alors, cette Jérusalem céleste, toutes ces... il y avait toutes les pierres. Bon, c'est-à-dire que cette Jérusalem céleste, qui est l'humanité entière, réconciliée avec Dieu et réconciliée entre nous, eh bien, elle est... c'est les pierres qui étaient sur le costume du prêtre du temple. Donc, c'est l'idée que l'humanité devient... Peuple monde devient peuple prêtre, si vous voulez, comme une humanité digne d'être vraiment en contact, en relation avec Dieu, contact d'apporter le salut aux autres autour d'eux, le pardon de Dieu et de manifester vraiment Dieu. Alors, tout est symbolique, bien sûr, là-dedans, vous voyez. Les murailles, la muraille, une haute muraille, les remparts, ça aussi c'est les psaumes, hein.
Ein Festebourg,
comme dirait Luther, voilà, Ces psaumes, je ne sais pas, 30, 31, 32, « Seigneur est un rempart, une forteresse ».
De murs et d'avant-murs,
oui. Oui, c'est ça. Et ça, ça exprime peut-être la grâce de Dieu. Bon, on peut retrouver dans le psaume 22, 23, le salut de Dieu comme un bâton, finalement, qui protège des loups, des voleurs. Ce bâton tombe en berger, on retrouve ça aussi.
Bien sûr.
C'est la bergerie qui est enclose, c'est une protection pour les, contre les loups et les voleurs. Donc c'est la grâce de Dieu qui nous protège du mal qui vient de l'extérieur.
Et des murailles épaisses d'ailleurs, 144 épaisses. Coudées, c'est l'épaisseur.
Oui, donc c'est voilà. Quand même des sacrées murailles. Hein.
C'est du lourd.
C'est du lourd. Mais en même temps, il y a 12 portes qui sont toujours ouvertes jour et nuit, en fait. Et donc on retrouve, comme dans Jean 10, effectivement, cette ouverture, ce va-et-vient. Cette... Et puis s'il y a 12 portes, 3 dans chaque direction finalement. Donc, d'où qu'on vienne, il y a toujours 3 portes pour accueillir tous les peuples, finalement, de toutes les directions. Et ça, ça pourrait nous réconcilier entre nous tous. Ben oui, il y a des tas de chemins pour arriver à Dieu. Et donc, je dirais, ben oui, puisque par définition, il n'y a qu'un Dieu, qu'une cité, on peut y arriver en étant musulman, on peut y arriver en étant juif, en étant chrétien, protestant, catholique, orthodoxe, évangélique, je ne sais quoi. Et puis, ben, de toute façon, il y a toujours 3 portes. Et ce 3, c'est un chiffre de Dieu, c'est-à-dire avant même, je dirais, l'invention de la Trinité au 2e, 3e siècle, le 3 a toujours été le chiffre de Dieu, dans beaucoup de civilisations d'ailleurs. Donc il y a toujours une porte divine, finalement, qui, pour entrer dans ce peuple, dans l'humanité, dans l'humain vrai, finalement. Voilà. Et c'est des anges qui gardent ces portes. Donc les anges, ils ne viennent pas pour empêcher d'entrer. Au contraire, c'est les anges qui nous disent quel chemin pour trouver la porte quand on est à l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre de rigolo dans ce texte ? Ben, on pourrait dire que c'est des anges, mais l'ange, ça fait référence, il ne faut pas attendre une bête à plumes qui va rentrer par la cheminée. C'est... L'ange, ça veut dire l'expérience spirituelle, si vous voulez. C'est l'illumination du Saint-Esprit dans la conscience. Non ? Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Je ne crois pas qu'il y ait des bêtes à plumes, si, avec 3 paires d'ailes.
Non.
Bon, il y a des gens qui les attendent peut-être.
Oui, j'imagine que... parce qu'il faut... Enfin, moi, je suis toujours quand même sensible à l'idée que nos pères dans la foi, ceux qui nous ont transmis, ont essayé eux-mêmes de se confronter. Enfin, ils n'étaient pas toujours plus bêtes que nous. Et parce que l'étang de feu, au fond, on voit bien qu'ils ont essayé et que le compromis, ça a été l'apparition du purgatoire. Le purgatoire dont on rit aujourd'hui, c'est quand même ça. On a essayé de trouver quelque chose d'intermédiaire qui ne soit pas ouvert à un châtiment définitif et éternel. Et qui soit une purification, un lieu de purification. Alors, c'était, bien sûr, c'était présenté de manière spatialisante, parce qu'on voilà, on présentait comme un lieu. Mais voilà, il y avait quand même la conscience très forte de, que l'enfer, comme châtiment éternel, était en contradiction avec la bonté du Créateur, et puis avec la recréation, etc. Voilà, parce que de toute façon, certes c'est hygiénique, le feu, la soufre, enfin, c'est pas forcément agréable. Donc j'imagine, enfin le soufre, ça sent pas très bon. Voilà, donc il y a une imagerie qui est née de ça. Le purgatoire, au fond, pourrait ne pas être rangé au bric-à-brac folklorique. De nos églises, c'était une manière de comprendre le besoin d'être purifié pour tous, évidemment, les méchants qui auraient plus de 50% d'infidélité.
Oui, mais ce que je crois, c'est que le placer au-delà de la mort, c'est là que c'est une mascarade, ce salut est à recevoir maintenant.
Oui, mais la théologie a toujours dit que le purgatoire, justement,
il est dans le temps présent.
Était lié au temps.
Non, mais même il est dans le temps présent. Oui. Il est avant la mort. Il n'est pas après. Et donc c'est à vivre maintenant, et c'est pas à vivre comme on a un peu l'impression d'une punition ou de quelque chose, alors que non, c'est au contraire, à mon avis, c'est un service qui est rendu. Alors c'est vrai que de changer, d'arriver à progresser, ça demande à tous quelque chose d'un peu difficile, de changer d'opinion, de s'ouvrir à quelque chose de neuf. Ou quand on est adolescent, on grandit, il y a des crises de croissance, on a mal un peu, c'est normal, si vous voulez. Donc, moi, je vois plus ce purgatoire, c'est pas inintéressant comme idée, je suis d'accord. Mais c'est plus à mettre dans, comme un don de Dieu, comme un service de Dieu, de sa grâce, de son amour, pas pour torturer, pour voilà, mais comme quelque chose, comme une amélioration, un complément. Et puis c'est quoi ? Une évolution à vivre, un supplément de création. Ici, c'est présenté comme un supplément de création, en fait. Donc, il y a une succession d'images, mais il faut les voir comme s'éclairant mutuellement. On dit, voilà, la terre ancienne disparaît, il y a une nouvelle terre, une Jérusalem qui descend. C'est pleine de paix, de souffrances calmées, etc. Mais en fait, tout ça parle de la même chose, à mon avis. Ce supplément de création, ce supplément d'être... Là, c'est le mal comme manque de bien de Saint-Augustin, c'est-à-dire c'est un manque d'évolution, mais on peut le recevoir aujourd'hui par la foi, par la prière, par le dialogue entre nous, par cette ouverture à ce supplément d'être qu'est Dieu, à sa gloire, donc c'est le Saint-Esprit, la gloire de Dieu en fait, c'est la présence active de Dieu dans son peuple pour le guider, l'éclairer, le nourrir, l'abreuver, voilà.
C'est Saint Thomas, la privatio boni, la privation de bien.
Ah oui, mais je crois que ça vient de Saint Augustin, moi, ça.
Peut-être. Ah bon, oui.
C'est vrai que j'aime beaucoup Saint Augustin. Saint Augustin, oui, bien sûr, même s'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais Thomas d'Aquin, c'est formidable. Je ne sais pas si vous avez regardé, ça vaut le coup de regarder, parce que, en fait, c'est très ouvert. Il y a une question théologique. Il dit, il pose la question. Ensuite, il donne les différentes réponses qui ont été apportées à cette question et il le dit honnêtement, en fait. Il présente d'une manière très intéressante, ouverte. Quoi ? C'est très ouvert parce qu'il fait le catalogue des opinions diverses sur la question. Après, il dit, voilà ma réponse. Et la réponse n'est pas inintéressante du tout parce que c'est pas du tout le... il argumente son truc. Hein. C'est pas du tout... C'est pas asséné du tout. C'est argumenté. Mais du coup, même, on n'est pas forcément d'accord avec la réponse de Thomas d'Aquin, mais dans les arguments, différents arguments, les différentes réponses possibles, c'est très éclairant, c'est passionnant. Moi, je suis assez fan de la somme théologique, en fait. Alors, sinon, les rôles des apôtres, ici, voilà, ça, c'est rigolo. Ils sont dans les fondations, en fait.
Oui.
Ils sont dans les fondations. Donc, ce n'est pas les apôtres qui donnent l'entrée à la porte avec leur voix, en fait. Ça, c'est dans l'expérience spirituelle individuelle, finalement, moi, je dirais. Les apôtres, ils sont la fondation de la muraille. Alors, comme tu disais, c'est quand même par les apôtres qu'il y a un peu un rempart quand même qui est tenu. C'est de penser tout à fait n'importe quoi, peut-être.
Oui, tout à fait, mais c'est intéressant. Ça me frappe d'autant plus que c'est la Saint Matthias aujourd'hui. Matthias, c'est celui qui a remplacé Judas. Et donc, j'ai célébré la messe des apôtres. Mais c'est très beau. Les paroles de la liturgie sont très belles. Justement, pour rappeler que les apôtres sont... Ce n'est pas des leaders ou des... Ce sont vraiment les colonnes remparts de l'Église et les remparts, oui. qui nous donnent une assise, qui nous donnent un enracinement.
Mais en même temps, s'il manque un seul des 12 apôtres, la muraille a un trou, en fait. Donc c'est que dans le pluralisme de ces 12 qu'on peut avoir la muraille, s'il en manque un seul. Donc, et puis si les apôtres étaient tous complètement d'accord, il n'y a plus de ville en fait. Parce que la muraille, elle ferait 10 cm de diamètre. Il n'y aurait pas d'espace entre les murs pour l'intérieur. Donc il faut qu'il y ait cet écart en même temps. Cet écart des apôtres, ce pluralisme... Mais un pluralisme, comme tu disais, j'aimais bien ce que tu disais là sur le concile de Chalcédoine, cet écart...
Distinct sans séparation.
Et ça, c'est là qu'il faut la communion, et c'est là que c'est dommage que ne puisse pas communier ensemble avec les écarts. Parce que du coup, c'est ça qui permettrait de montrer, à la limite, la gloire et la grandeur de Dieu au-delà des limites humaines, au-delà du contingent, de notre point de vue personnel. Voilà, je crois que ça c'est... Donc voyez, c'est, en fait, c'est à travers ces images, il y a quand même un foisonnement de choses extrêmement signifiantes et assez facilement signifiantes, en fait. Quand on médite dessus, on peut se dire, bon, ben, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour mon salut? Et finalement, moi, je ne suis pas hyper fan de l'Apocalypse, à vrai dire. Parce que le problème... Quoi? Le problème, si vous voulez, c'est que l'Apocalypse... d'abord, ça a été... Quand on regarde l'Apocalypse sur mon ami Google, par exemple, il vous sort tout ce qu'il peut y avoir comme sectes les plus horribles, qui sont extrêmement friands de ce texte, qui accoudent des temps de feu, de machin, etc.
Gog et Magog.
Gog et Magog, le machin, etc.
Google et Magog.
Ah oui. Ben, on peut menacer les gens, on peut leur faire peur, on peut les... Donc c'est un...
L'antéchrist,
et puis la fin du monde est proche, alors vous avez intérêt à vous repentir maintenant, sinon c'est fichu, vous êtes 144 000 élus, c'est très très peu, donc si vous n'êtes pas dedans, c'est mal parti, donc c'est vraiment un outil, une arme de guerre pour faire peur aux gens et pour les convaincre de surtout ne pas quitter l'église, de bien donner l'argent et de machin. Et à mon avis, c'est le contraire que dit ce texte. Mais comme ça se prête merveilleusement bien à faire peur aux gens, pour ça, je trouve que ce texte a été un peu sali par l'usage qui est possible d'en faire. En fait. C'est ça qui m'ennuie, en fait, avec ce texte. Alors que, par définition, la clé de lecture et de l'Évangile et de l'Écriture tout entière, des Écritures tout entières, c'est la grâce de Dieu, l'amour de Dieu manifesté en Christ, en fait. Comme le dirait Paul. Donc c'est la clé d'interprétation. C'est, à mon avis, c'est l'alpha et l'oméga de l'interprétation biblique. Ensuite, donc on n'a pas le droit d'en faire une menace de la méchanceté de Dieu ou du jugement terrible de Dieu qui va nous envoyer en enfer si on file pas doux. À mon avis, c'est pas possible. Hein. Mais bon.
Mais les grandes sectes du 19e siècle, les Mormons, les Témoins de Jéhovah, les Adventistes du 7e jour. Trouvent leur source dans, en particulier dans le millénium, hein, dans l'idée que cette création effectivement va être rayée, qu'il y aura un petit groupe qui survivra 1000 ans, etc. Ils prennent au pied de la lettre. C'est intéressant parce que si on s'intéresse un peu aux États-Unis, on s'aperçoit à quel point, dès les pères fondateurs, hein, dès le Mayflower, etc., il y a cette idée qu'on va créer un royaume religieux qui tendrait vers la perfection. Il y a quelque chose de très millénariste dans le messianisme américain. Et
vous avez aussi un texte épouvantable de D.H. Lawrence, l'auteur de La Vendée des Chatterjee,
ouais.
Qui est dirigé contre l'Apocalypse, parce qu'il trouve que c'est un texte monstrueux, sanglant, etc. J'ai connu ça par Gilles Deleuze, qui signalait que c'est un texte poétique très facile.
Oui, oui, oui.
Et alors, il s'en prend à l'agneau, parce que là, c'est une question sur l'agneau, mais je considère que l'agneau est vorace, carnassier, sanglant, monstrueux. Pas du tout l'agneau, pas ça.
Ah, mais de fait, dans l'Apocalypse, c'est pas le même mot.
C'est une question sur l'histoire du Saint-Denis. En tout cas, c'est un texte. Alors, c'est un texte qui prend l'Apocalypse au sens où vous le dites de toutes ces sectes, mais pour détester l'Apocalypse, il considère que c'est un monument d'horreur. Tout à fait dans le style de Laurence.
Oui, et puis c'est un Anglais. J'ai envie de dire que seuls les Russes et les Américains pouvaient être apocalyptiques. Parce qu'autant Dostoïevski que Faulkner peuvent entrer là-dedans, parce qu'ils ont l'impression qu'ils appartiennent à un peuple qui a une mission. Un Anglais, je ne sais pas, enfin la Russie a sûrement une mission de l'Angleterre, mais j'imagine qu'il y a une tradition d'humour et puis de flegme qui fait que les images un peu spectaculaires... voilà. Mais d'autre part, c'est vrai, François, l'agneau n'est pas le même mot d'ailleurs que dans l'évangile de Jean. Ici, c'est le jeune bélier. Hein. Quand on dit l'agneau, c'est le jeune bélier fougueux, impétueux, presque en rute, parce que c'est l'image. Hein. C'est pas du tout. C'est l'agneau adolescent. Et nous, on n'a pas ça, parce qu'on a une image, nous, soit du mouton, le mouton de Panurge, le bétail, quoi. Et puis l'agneau si doux, le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Mais entre les deux, on n'a pas c'est un peu l'équivalent du taurillon pour le taureau, voilà, qui n'est pas le veau. Vous avez peut-être un...
Oui, c'est l'agneau.
Oui.
En
Ils mettent à...
Arnion.
Ah oui, mais justement, c'est le mot que... Parce qu'il y a deux mots en concurrence. C'est comme pour dire cousin. Alors, évidemment, je vais confondre les mots. Donc, j'aurais dû aller voir. Mais c'est l'agneau au sens du jeune mouton, du jeune mâle. Parce que le mouton, déjà, c'est, normalement, c'est le bélier châtré. Donc, vous voyez, on a châtré un peu l'image de l'agneau, puisqu'on on en a fait une sorte de... Oui. Je pense qu'il faut avoir en tête que c'est un jeune mâle. Voilà.
Parce que même début de Jean, c'est Amnos, c'est pas Arnion, hein, c'est pas le même.
C'est pas le même mot. Oui,
c'est
oui.
pas le même mot. Début ouais. de Jean, Jean 1, 35, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est pas le même mot.
C'est pas le même mot. Alors, il y a sûrement des nuances bucoliques qui nous échappent. J'aurais dû aller voir parce que c'est intéressant. En tout cas, Yves-Marie Blanchard, qui a été mon maître pour la littérature johannique, qui est un des grands spécialistes, avec mon homonyme Pierre Prigent, grand spécialiste de Jean, disait qu'il fallait traduire, il faudrait traduire par le jeune bélier. Voilà. Alors ça change beaucoup de choses dans oui. nos... Voilà, le voici l'agneau de Dieu, oui. Ça c'est Jean-Baptiste. Alors on lit rapidement peut-être, avant les agapes conclusives, le chapitre 22 quand même, pour qu'on entende le Maranatha, le « Viens Seigneur Jésus ». Voilà.
Notre lectrice.
Oui, Bénédicte.
Puis il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la cité et des deux bras du fleuve est un arbre de vie, produisant 12 récoltes. Chaque mois, il donne son fruit et son feuillage sert à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Nul n'aura besoin de la lumière du flambeau, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront au siècle des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et véridiques. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et j'ai vu cela. Et après avoir entendu et vu, je me prosternais pour l'adorer au pied de l'ange qui me montrait cela. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un compagnon de service pour toi et pour tes frères, les prophètes, et pour ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. Puis il me dit, ne garde pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Que l'injuste commette encore l'injustice, et que l'impur vive encore dans l'impureté, mais que le juste pratique encore la justice et que le saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité. Dehors les chiens et les magiciens, les impudiques et les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime ou pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Je suis le rejeton, et la lignée de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne. Que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la cité sainte qui sont décrits dans ce livre. Celui qui atteste cela dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. »
Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous propose qu'on dise ensemble peut-être le Notre Père.
Pour clore l'année.
Oui. Maranatha, viens Seigneur Jésus. C'est très impressionnant parce que je crois que voilà, il faut laisser le texte retentir en nous. Comme nous l'avons appris de Jésus, de celui qui est l'agneau, de celui qui veut rassembler ses églises, que tout soit un comme le Père et moi nous sommes un. Nous pouvons dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen.